Il était question de changer nos modes de consommation samedi dernier dans le septième volet, avant-dernier volet d'aujourd'hui, donc le rendez-vous hebdomadaire estival de RTS1 consacré au développement durable avec Jonas Schneider et Marc Muller. Aujourd'hui, c'est donc tous les samedis vers 13h10 et c'est aussi un prolongement interactif dans On en parle tous les lundis de l'été puisque vous pouvez nous appeler au 0800 108 208 pour réagir à cette émission, à l'émission de samedi, mais aussi à l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Marc Muller.
Bonjour Philippe.
Spécialiste en développement durable, coproducteur donc d'aujourd'hui. Vous nous présentiez plusieurs initiatives de développement durable dans l'émission de samedi dernier. J'y reviens brièvement. On avait une coupe menstruelle pour remplacer les tampons et les serviettes jetables. Une entreprise genevoise qui reconditionne des smartphones usagés. Une société fribourgeoise qui fabrique des sacs à la mode à partir de voiles de bateaux. Alors on reviendra en détail sur ces exemples. Mais avant cela, est-ce que ce genre d'initiative, est-ce que ça a vraiment un avenir ou est-ce que ça reste finalement très marginal, très de niche?
Oui, mais ça c'est une super question, et d'ailleurs cette question elle est un peu au cœur de notre émission aujourd'hui, parce que quand j'ai rencontré Jonas Schneider il y a 2 ans en arrière et qu'on discutait d'écologie, lui me disait oui mais l'écologie c'est de la privation, l'écologie c'est punitif parfois, et moi j'ai travaillé dur, j'ai du pouvoir d'achat, donc maintenant j'aimerais pouvoir me faire plaisir et j'ai pas envie de me priver. Moi je disais ben non, l'écologie c'est pas du tout de la privation, au contraire c'est consommer mieux, c'est de la qualité de vie, c'est du bien-être, et en fait ces deux discours ont fait naître cette émission, et aujourd'hui on est dans l'émission consommation cette année. Et justement, en fait, notre discours, c'est pas de dire « privez-vous, arrêtez de consommer », mais avant d'aller vers la décroissance, déjà, pensons à toutes les façons de consommer mieux, et il y en a des dizaines et des dizaines, là c'est que 3 exemples, je pourrais en citer bien d'autres, mais déjà si on consommait mieux, c'est-à-dire plus durable, plus local, avec des matériaux biosourcés et de façon plus raisonnable et de la meilleure qualité, en gros, on pourrait avoir un impact environnemental bien inférieur et toujours se faire très plaisir.
Alors encore faut-il que les vendeurs, que les distributeurs se mettent à valoriser aussi ces produits. Alors des vendeurs peut-être comme celui qui est en ligne avec nous, Pascal Meyer, bonjour. Pascal Meyer, vous êtes avec nous? Bonjour, bonjour. Voilà, on vous entend pas très bien, mais on vous entend quand même. Vous êtes le fondateur bien connu de Coca, hein, Coca, donc dont le principe est de vendre chaque jour un produit à prix cassé. On a pu vous voir samedi passé. Vous étiez l'accompagnateur. Vous accompagniez Marc et Jonas dans leur bus solaire. Est-ce que ça vous a donné des idées pour rendre Coca plus écolo?
Écoutez, oui, ça a donné passablement l'idée. C'est vrai que les deux acolytes, Marc et Jonas, étaient quand même assez, on va dire, au taquet pour me présenter les divers projets qu'il y avait. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'on peut faire, et ça c'est des discussions d'être un petit peu plus sérieuses que j'ai pu avoir avec Marc aussi, avec ce qu'on a autour de nous aujourd'hui, avec les technos qui sont actuels, on arrive déjà à faire quand même passablement de bien autour de nous sans se priver autrement, quoi.
Oui. Mais est-ce que Coca, qui est en fait un peu le coin des bonnes affaires, autrement dit, on veut des objets neufs, des produits neufs pour pas trop cher. Est-ce que ça n'est pas antinomique avec le développement durable qui intègre l'idée de payer le juste prix, de rémunérer correctement le travail de production des objets?
Alors moi, je pense pas du tout que ce soit antinomique. Bien au contraire, je pense que ça peut totalement s'allier. Alors, c'est clair que Coca, vous l'avez justement dit, c'est effectivement un site qui vend des produits, mais c'est aussi un site communautaire. Et on a des démarches qu'on fait justement avec la communauté. Donc, on est assez à l'écoute de cette communauté qui, quand même, s'exprime beaucoup. Et suite à l'émission de samedi passé, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de gens qui disaient « mais excellent, quoi, il faut que la communauté puisse se mobiliser pour essayer de trouver des produits qu'on pourrait proposer à un maximum de personnes qui soient écologiquement responsables et puis qui puissent convenir à nous qui nous trouvons en Suisse ou en Suisse romande. »
Mais ça serait envisageable que Coca vende des smartphones reconditionnés, par exemple?
Oui, d'ailleurs, c'est déjà arrivé, hein, on l'a déjà fait dans le passé. Donc oui, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. D'ailleurs, suite au tournage de l'émission, on a eu quelques contacts avec aussi les divers intervenants qui a eu dans l'émission. Donc oui, tout à fait, c'est quelque chose qui est envisageable, c'est quelque chose qu'on prévoit. D'ailleurs, on a des nouvelles initiatives qui vont arriver en début d'année prochaine, qui vont totalement dans ce sens-là, pour redonner une seconde vie à tous les produits Coca qui ont été achetés par la communauté afin de pouvoir effectivement les recycler, et puis surtout parce qu'ils sont un excellent état de marque, il serait dommage de ne pas les utiliser.
Une dernière question, Pascal Meyer. On vous entend dire dans l'émission de samedi passé que le slogan de Coca, c'est le pouvoir de la communauté. Quel pouvoir ont les membres de la communauté Coca?
Et de pouvoir s'exprimer librement sur un produit qui est proposé en fait à cette communauté, c'est-à-dire de pouvoir sans filtre dire si c'est un produit qui est bon, c'est un produit qui est mauvais, c'est un produit qui est trop cher, c'est un produit qui est fabriqué dans des conditions qui ne sont pas adéquates. C'est justement de pouvoir échanger, discuter et puis de pouvoir vraiment se forger un avis qui soit sincère avant de pouvoir prendre une décision. Et ça, c'est quelque chose qui pour nous est juste essentiel et puis qu'on veut absolument cultiver et garder, même si ça va un petit peu à l'encontre du commerce traditionnel. Nous, on croit vachement en ça et puis c'est quelque chose qu'on veut continuer à pousser de l'avant énormément.
Marc Muller.
Oui, c'était marrant pendant la discussion qu'on a eue sur les tournages avec Pascal Meyer. Il m'a dit quelque chose, je pense, qui est assez juste, qui est un peu un problème dans l'écologie. Lui voudrait bien vendre des produits à travers sa communauté, mais c'est très difficile aujourd'hui à trouver des produits écolos qui soient beaux. Et ça, c'est vraiment certainement un problème dans l'écologie, c'est qu'il y a des gens très très convaincus, ouais, mais qui ont peu de peine à rendre la chose sexy. Je ne sais pas si vous en pensez, Pascal Meyer. Moi, c'est un sentiment que j'avais pas à l'époque, mais en discutant avec vous et d'autres personnes, je me rends compte que c'est assez vrai au fond.
Non, mais c'est vrai, t'as totalement raison. Le grand souci, c'est effectivement ça. Après, il y a une question de prix, parce que malheureusement, aujourd'hui, on est dans les balbutiements de tout ce qui est clean. Et puis, quand on commence un projet, on n'arrive pas à minimiser les coûts, mais ça commence justement à devenir quelque chose qui devient monnaie courante. Donc, de plus en plus, on voit qu'on arrive à avoir des interlocuteurs qui sont prêts à faire des efforts assez sympas, puis surtout à faire évoluer les produits de manière visuellement plus attractive que le truc tout pourri, quoi.
Et travailler sur le design. On l'évoquait aussi d'ailleurs lundi passé avec l'exemple de Tesla qui a su rendre aussi les voitures électriques attrayantes en leur donnant justement une forme plus racée, plus sportive. Merci beaucoup Pascal Meyer d'avoir été quelques instants en direct avec nous dans cette
merci
émission. Et puis nos excuses pour la ligne qui était mauvaise, mais on a compris quand même votre propos. C'est une excellente journée.
Merci beaucoup, au revoir.
Et puis on rappelle notre numéro gratuit si vous voulez réagir, si vous avez des questions à poser à Marc Muller au 0800 108 208. Donc réaction en direct, notre ligne vous est ouverte jusqu'à 9h. Marc Muller, on revient justement sur cette vague de vente par correspondance. Hein, Coca, c'est justement de la vente par correspondance. On attend aussi la venue annoncée, très attendue, d'Amazon en Suisse. On a aussi d'autres géants comme Zalando qui occupent le marché. La vente par correspondance, ça semble être quand même l'avenir de la conso. Est-ce que c'est plus écolo d'acheter par correspondance ou d'aller au magasin pour faire ses emplettes?
Ou alors disons le fait d'aller au magasin, par exemple prendre son vélo, prendre sa voiture par accord à vendre par correspondance ou se faire livrer chez soi, il n'y a pas une énorme différence si on compare surtout à l'impact environnemental que peut avoir le produit en soi. Donc c'est surtout quel type de produit on achète, c'est ça vraiment qui fait la différence.
C'est le produit et pas tant le mode de consommation.
Si on achète quelque chose qui a été fait en plastique à l'autre bout du monde et puis il a fait déjà 20 000 km pour venir dans le magasin, les 10 derniers kilomètres, c'est pas vraiment ça le problème. Mais c'est vrai que d'une façon générale, on va se tourner vers la consommation en ligne, hein, moi le premier. Et la consommation en ligne a les deux avantages et les deux inconvénients en fait. C'est que à la fois on peut consommer beaucoup plus facilement, donc d'un seul clic on peut dire ah ça me plaît, hop, et de façon un peu spontanée on achète et puis on achète quelque chose qui est dommageable et peut-être quelque chose qui est cheap et pas de bonne qualité. Mais de l'autre côté aussi on sent comme chez Coca qu'en ligne on commence à échanger de plus en plus de tuyaux, que les produits commencent à être notés, qu'il y a plus d'exigences sur la transparence parce que quand j'achète en ligne j'ai peut-être moins confiance, donc ça pousse à ceux qui vendent en ligne à mettre plus d'informations sur l'origine, sur comment c'est fabriqué, etc. Donc, mon sens, ça pourrait plutôt aller dans la bonne direction, la vente en ligne.
Alors, on va reprendre les trois exemples qu'on avait dans l'émission de samedi. On avait donc l'exemple de la coupe menstruelle au lieu des tampons, des tampons ou des serviettes hygiéniques. On entendait le témoignage de Francisca qui tient un magasin à Delémont, qui promeut justement ces coupes menstruelles. Alors, il y a quand même un paradoxe dans l'économie de développement durable, hein, parce que ce qui est réutilisable n'est justement pas très commercial, parce que quand on en a vendu un de ces objets, ben on va plus en vendre d'autres. Qui aurait envie de se lancer dans un business comme celui-là?
Même si une coupe menstruelle, on n'en vend qu'une tous les 10 ans, il y a quand même des millions, des millions, des milliards de femmes dans le monde, donc c'est quand même un marché en soi. Et puis, il y a beaucoup de produits de qualité. C'est vrai qu'une COP, c'est plutôt 30 francs, alors qu'un tampon, c'est quelques centimes pièce. Donc c'est aussi un produit qui a de la valeur, sur lequel on éventuellement peut avoir des marges, parce que c'est un produit de bonne qualité. qualité, sur lequel il peut y avoir un conseil, sur lequel on a besoin aussi, c'est tout ce qui touche à l'hygiène intime et l'hygiène corporelle. On sent qu'on a besoin quand même de discuter aussi avec un vendeur qui peut nous expliquer. Donc c'est clair qu'il y a un marché qui grandit. Et c'est vrai que l'hygiène corporelle, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser de sérieuses questions sur le cancer qui est en augmentation, sur les allergies, sur tout ce qu'on se met sur la peau, vraiment au contact direct du corps. Et de ce fait-là, il y a quand même beaucoup de gens qui sont sensibles à cette thématique. Moi-même, qui viens plutôt de l'énergie, donc c'est pas vraiment ma branche forte, hein, un peu l'hygiène corporelle, mais en travaillant avec l'équipe sur cette thématique, je me suis rendu compte effectivement à quel point il y a une demande et il y a encore peu de solutions sur le marché aujourd'hui, mais on sent que beaucoup de gens commencent à s'échanger des tuyaux pour dire, non, j'aimerais vraiment une crème de qualité, j'aimerais peut-être une cup et pas un tampon, etc. Donc c'est vraiment une thématique qui est grandissante.
Là, il y a beaucoup de gens qui produisent aussi leurs propres cosmétiques. On en a parlé dans cette émission il y a à peu près une année. Donc des gens qui confectionnent leurs propres produits ou même leurs propres lessives. On aime de plus en plus savoir ce qu'on consomme, ce qu'il y a dans nos produits.
Oui, et d'une façon, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on cherche à reprendre le contrôle de ce qu'on mange, de ce qu'on se met sur la peau, de la façon dont on se lave. Mais c'est aussi un mauvais signal parce que ça veut dire qu'on a une perte de confiance avec ceux qui font ces produits. Si je dois les faire moi-même, c'est que j'ai plus confiance dans ceux qui me les vendent. Et là, quand ce lien commence à grandir, la même chose pour l'agriculture, si je commence à faire mes légumes parce que j'ai plus confiance dans l'agriculture, c'est dommage et ça montre clairement à la branche professionnelle qu'il faut réagir maintenant et qu'il faut vraiment changer ces produits pour offrir des solutions de qualité, de confiance aux consommateurs.
Si je reviens à la coupe menstruelle, c'est quand même une coupe en silicone, c'est aussi du plastique qu'il faut éliminer.
Oui, alors une petite coupe, une petite cup, alors vraiment peut-être pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, c'est vraiment une petite pièce qui est comme ça en forme de U, c'est un petit tonneau qu'on peut introduire dans le vagin et qui récupère le sang menstruel. Donc c'est un silicone médical, donc en fait cette petite pièce a une durée de vie quasiment 10 ans, donc on la nettoie à l'eau, on la fait bouillir après son cycle et comme ça elle n'a pas de bactéries, il n'y a pas de problème hygiénique, mais c'est quelque chose qui dure très longtemps et ça remplace des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de tampons sur la durée de vie, enfin sur la vie d'une femme. Et c'est vrai que c'est que quelques grammes de matériaux tous les 10 ans, donc ça on incinère, on brûle, c'est pas un problème. Enfin disons le rapport entre une cup et peut-être 10 000 tampons, c'est clair, c'est sans comparaison.
Oui. Alors par contre ça pose d'autres soucis. Par exemple, certaines femmes alors, qui utilisent justement les coupes menstruelles se plaignent qu'il n'y ait pas de toilette ou il y a un lavabo à l'intérieur des toilettes, enfin, on est obligé du coup d'aller dans les toilettes handicapées pour pouvoir nettoyer la coupe, ne pas devoir sortir justement des toilettes pour le faire au lavabo au vu et au su de tout le monde. Donc ça pose aussi des problèmes finalement, d'autres problèmes d'infrastructure. En fait, notre société n'est pas faite pour ça.
Bah oui, comme toujours, hein, dans le changement, dans les toilettes aujourd'hui, on a une poubelle dans les toilettes pour femmes et idéalement, il faudrait un lavabo. C'est vrai que ce serait le minimum. Sinon, il faut s'organiser, avoir une bouteille d'eau, on enlève la cup, on la rince avec une bouteille d'eau et on la remet ensuite en mettant le sang dans les toilettes. Ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que comme toute chose qui change, ça demande un petit peu d'adaptation.
Une adaptation pour le reste, justement. On ne pensait pas aux toilettes, mais finalement, s'il faut réaménager toutes les toilettes pour pouvoir utiliser les coupes menstruelles, effectivement, ça pose d'autres soucis. Marc.
Oui, mais ce qui est surtout intéressant dans cette thématique, c'est que on reprend le contrôle. C'est un petit peu ce que je disais au départ. Quand on a une coupe menstruelle, on sait ce qu'il y a dedans. On sait ce qu'on se met dans le corps et on sait surtout ce qu'on se met pas dans le corps. Quand on a un tampon, on a fait l'essai justement, si on humidifie un tampon, on se rend compte qu'il y a plein de petites particules, de micro-particules qui restent dans l'eau et ça reste dans le corps. Et ce qui est dans le tampon n'est pas forcément très connu, on sait à peu près ce qu'il y a dans un tampon, mais tous les produits qui sont dedans ne sont pas connus. Et ça c'est quelque chose qui inquiète. Et là justement, là on a une solution où on sait exactement ce qu'on fait à son corps, on sait exactement quelles sont les conséquences, c'est facile d'utilisation, il y a un petit changement à faire. Mais là aussi on a clairement une reprise de contrôle pour le bien-être et la qualité de vie.
8h51 sur la première, je rappelle que vous pouvez nous appeler pour poser vos questions ou soumettre vos remarques à Marc Muller au 0808-208-208. On a une première remarque qui nous dit, qui est plutôt élogieuse, hein, qui nous vient de Simone qui habite Lucerne. Elle nous dit « Les reportages sont trop courts, mais j'adore », dit-elle. Voilà.
Merci beaucoup.
Donc, plutôt un encouragement à continuer. On passe en revue donc l'émission de samedi. On avait aussi l'entreprise Recommerce qui se trouve à Genève, qui reconditionne les smartphones. On peut juste réexpliquer ce que fait Recommerce.
Oui, le principe est ultra simple et c'est vraiment du bon sens. Là, on change de téléphone portable quasiment toutes les années. Maintenant, avec les abonnements, on est vraiment encouragé à prendre un abonnement. Puis hop, toutes les années ou tous les deux ans, on a un nouveau téléphone portable. Ce qui fait qu'en Suisse, il y a à peu près 7 millions de téléphones portables qui sont dans les tiroirs, qui sont peut-être en très bon état ou quasi neuf, qui ont une année, de téléphones pas utilisés. Et accessoirement, personne n'a besoin du dernier téléphone. C'est vraiment un gadget, on a peut-être une dernière option, voilà, mais il y a vraiment très peu de gens qui ont besoin de la dernière nouveauté. On a besoin de téléphoner, faire des WhatsApp, envoyer des SMS, et c'est aller sur Internet, c'est à peu près tout. Donc Recommerce, en fait, rachète vos vieux téléphones, donc sortez les téléphones qui sont dans vos tiroirs, vendez-les à Recommerce, et par exemple, un téléphone qui coûterait neuf 800 francs, ils vont vous le racheter avec une année peut-être à 200 francs, ils vont le vérifier, donc ils contrôlent, il y a une quarantaine de points de contrôle, si toutes les connectiques marchent, si la batterie est en ordre, si l'écran fonctionne, et ils redonnent une garantie de 12 mois et ils le revendent peut-être à 300-350 francs. Comme ça, on peut avoir un téléphone qui a une année, qui est garanti, qui est comme neuf, pour la moitié du prix.
Mmh. Mais alors on prolonge donc la vie des téléphones, mais on ne décourage pas en fait les gens à changer de téléphone tous les deux ans. C'est quelque part une manière de nous donner une bonne conscience.
Certaines personnes pourraient dire j'ai plus besoin d'acheter neuf, donc j'économise de l'argent, j'achète en deuxième main garantie. Donc tous ces gens-là gagnent directement de l'argent pour un téléphone qui reste de très très bonne qualité. Les téléphones portables devraient quand même vivre 5, 6, 7, 8 ans si on les entretient et si on change peut-être la batterie une fois en cours de route. Donc on allonge considérablement la durée de vie de ces appareils, et comme ça on réduit la demande, il n'y a que ceux qui ont vraiment besoin de la nouveauté qui achètent des nouveaux téléphones, et ensuite on le passe au suivant.
Mais c'est facile de changer une batterie, parce que on décriait un certain temps ces producteurs d'appareils qui conçoivent leur appareil de façon à ce qu'on ne puisse pas réparer les appareils. Ce sera d'ailleurs l'objet de l'émission de samedi, des réparations. Est-ce que ça se fait encore, ou bien les fabricants sont quand même plus soucieux maintenant de concevoir des appareils qui puissent être réparés?
Oui, alors ça dépend un petit peu des marques, il y a des marques qui sont vraiment conçues pour, donc on les répare sans aucun problème, la batterie peut être changée en 2 minutes, pratiquement tous les téléphones peuvent être réparés, mais dans certaines marques effectivement c'est plus compliqué, la batterie ça change, mais après tout peut pas être changé, batterie, écran, donc pratiquement tous les marques c'est possible. Après, quand ça commence à venir des appareils photo cassés ou des choses comme ça, là c'est nettement plus compliqué selon les marques.
Alors il n'y a pas que l'obsolescence programmée qui touche les appareils, mais il y a aussi les usages qui évoluent. Par exemple, on a besoin de plus en plus de puissance pour consommer des vidéos sur son smartphone, ce qui ne se faisait pas il y a quelques années. Donc quand on dit qu'on change d'appareil tous les 2 ans, c'est pas que des caprices. Des fois, c'est parce que justement les usages changent, qu'on a besoin d'un appareil un peu plus performant parce qu'on en a besoin soit pour son travail, soit pour ses loisirs.
Oui, alors certaines personnes qui font de la photo, par exemple, les derniers Natel ont vraiment évolué en termes de photo. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire avec ces petits appareils photo. Oui, alors peut-être dans certains cas, il le faut, mais l'immense majorité des gens n'ont pas le besoin réel dans leurs applications d'utiliser le dernier processeur ou bien le dernier grand écran. Ça, c'est vraiment de la pure conso, un peu inutile finalement.
Donc en fait, il faudrait revoir aussi nos propres usages, savoir se limiter dans nos propres usages, se dire on va peut-être pas visionner une vidéo dans le train, on va peut-être attendre d'être chez soi devant un grand écran.
Oui,
et se plaisir comme ça.
Là, on est un petit peu dans la privation, j'aime pas trop ce discours, parce qu'en fait on a des téléphones de très bonne qualité qui ont une année, et c'est ça que je trouve intéressant. On peut acheter pour deux fois ou trois fois moins cher un appareil haut de gamme, très bonne qualité, garanti, qui va vivre encore longtemps pour moins cher. Donc c'est du pur pouvoir d'achat qu'on gagne, alors qu'on a 99,9% des fonctions.
Ouais. Donc en fait, il faudrait considérer ce type d'achat comme un investissement. Réfléchir un peu à ce qu'on va faire avec cet appareil et se dire que si on l'achète, c'est pas que pour une année ou deux ans, c'est pour beaucoup plus de temps.
Oui, le cas échéant, on peut encore le réparer. Il y a une première personne qui a une durée de vie de une année ou deux ans. Nous, on le récupère, on le reconditionne et on le rachète avec une garantie. Après 3-4 ans, on peut lui changer la batterie et l'appareil dure 5-6 ans, c'est tout à fait possible.
Troisième exemple de l'émission de samedi dernier, c'était le upcycling. Donc cette entreprise fribourgeoise Ronde Chute qui fabrique des sacs à partir de voiles de bateaux. Alors ça fait penser à la toile cirée des camions des produits Freitag, qui avait été précurseur aussi en la matière. Est-ce que la mode, c'est le domaine privilégié pour le upcycling?
Probablement, c'est vrai que dans la mode, on a envie de se démarquer un peu, de se différencier, de chercher quelque chose de spécial ou quelque chose qui correspond vraiment à notre identité. Et dans l'upcycling, c'est vrai qu'on peut marquer clairement cette identité, c'est sympa. On peut aussi faire des choses sur mesure, donc on peut avoir un sac qui est unique, on peut choisir les couleurs, donc tout ça, ça va dans le sens de la consommation, de se faire plaisir, mais on le fait avec un sac qui est fabriqué en Suisse, où les gens sont payés correctement ici en Suisse, où l'argent n'est pas tout investi dans le transport et dans le marketing, mais où on va voir les couturiers, on peut discuter avec eux, on peut faire une proposition, et on a un matériau qui est un matériau upcyclé, donc c'est un matériau qui a déjà une durée de vie une fois sur un bateau, on récupère ce matériau qui est en très très bon état, et on en fait un sac qui est juste splendide.
Et il y a d'autres objets qui pourraient être réutilisés, d'autres matières, d'autres matériaux qui pourraient être réutilisés dans la mode ou dans d'autres domaines.
Oui, alors je pense que les deux grandes thématiques dans l'utilisation des matériaux, c'est d'utiliser des matériaux biosourcés. Donc par exemple du lin, c'est un matériau biosourcé parce qu'il vient de l'agriculture, le coton, etc. Donc éviter tout ce qui est plastique, tout ce qui vient du pétrole, en gros, c'est à bannir. Si possible, quand on a un matériau biosourcé, un matériau qui provient de l'agriculture biologique, ça c'est un des grands volets. Dans l'émission, on montrait aussi, par exemple, un sac avec un faux cuir, on peut absolument pas dire que c'est pas du cuir, mais qui provient de résidus de la production d'ananas. Donc quand on a produit l'ananas, on a des fibres végétales à côté, qui sont les feuilles, etc. Avec ça, on peut faire des cuirs qui sont splendides. Donc ça, c'est tous les matériaux biosourcés. Et tous les matériaux upcyclés, c'est les bâches de camions, c'est les toiles de tente, c'est les voiles. On peut avoir plein de pièces qui peuvent aussi provenir de l'industrie du métal. On voit tout ce qui est en design industriel, c'est souvent des restes de matériaux industriels. Et là, il y a vraiment un foison d'idées qui peuvent venir de la part des créateurs et des designers.
Voilà, des idées, d'ailleurs, il y en a sur le site d'aujourd'hui.
Oui, alors ça, c'est vraiment une des choses dont on est très fiers. On a fait maintenant un très beau site internet qui s'appelle nous-aujourd'hui.ch. Et là-dessus, on retrouve des centaines et des centaines justement d'adresses de consommation durable. On retrouve des hôtels durables, des restaurants durables, on trouve des produits de consommation, on trouve des vélos, on a huit thématiques. Et là-dessus, justement, on peut se faire plaisir, on peut consommer, mais de façon raisonnable, durable et compatible avec les enjeux environnementaux actuels.
Marc Muller, merci beaucoup d'avoir partagé cette demi-heure dont on en parle avec nous. On mettra d'ailleurs en lien le site nous-aujourd'hui.ch où on peut trouver justement toute cette foison d'initiatives pour le développement durable. Et on vous retrouvera donc samedi sur RTS 1 dès 13h10 avec votre bus solaire, vos poules et affublé de Jonas Schneider pour de nouvelles aventures durables. Ce sera donc dans le domaine de la réparation. Bonne semaine et à lundi prochain.
Merci
aussi
beaucoup, à lundi prochain.